Vous écoutez RTL.
Votre invité ce matin, Bernard Porrette, l'ancien député socialiste Sébastien Pietrasanta.
Monsieur Pietrasanta, bonjour.
Bonjour.
En novembre 2015, ce sont des commandos djihadistes qui ont frappé la France. Avant-hier à Carcassonne et à Trèbes, c'est un homme seul. Y a-t-il pourtant, selon vous, des points de convergence entre ces deux attaques ?
C'est évidemment des attaques qui se revendiquent ou qui ont été envoyées par Daesh. Moi, le point de comparaison, il est plutôt vis-à-vis des frères Kouachi.
Oui.
Des frères Kouachi qui ont commis les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo et qui étaient surveillés par les services de renseignement, par la DRPP, le service de renseignement de la préfecture de police, puis
oui.
Après par la DGSI, et qu'on considérait, les écoutes téléphoniques n'avaient rien donné. On est à peu près dans la même situation où là, cet individu, Redouane Lakhdim, était surveillé par la DGSI, donc quand même le principal service de renseignement contre le terrorisme, et qui, la surveillance n'avait rien donné. Ça interroge sur la manière, effectivement, de surveiller.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui surveillaient ce gars-là disaient qu'il est potentiellement partant pour la Syrie, mais ils ne le voyaient pas agir en France. Comment ont-ils la capacité de faire ce différentiel-là ?
Mais c'est toute la difficulté et le défi pour les services de renseignement. On l'avait pointé dans le cadre du rapport de la commission d'enquête, notamment justement sur la surveillance des frères Kouachi, le fait que les surveillances ne donnent rien. C'est effectivement aussi un indice d'une volonté parfois de passer à la clandestinité, de se faire oublier. On voit
oui.
bien, ça a été le cas avec notamment Mera, qui quelques jours avant ces attentats était en boîte de nuit. Il y a cette volonté de dissimuler ses véritables intentions. Ça, c'est véritablement un défi extrêmement important pour les services de renseignement de faire la distinction entre effectivement un individu qui ne donne rien et qui a aucune volonté de passer à l'acte et un individu qui se cache, qui dissimule ses véritables intentions. Un terroriste, par définition, ne va pas crier sur tous les toits sa volonté de passer à l'acte. Et donc ça, c'est compliqué. Moi, ce qui m'interroge, c'est les déclarations du ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y avait...
Qui dit
nous l'avions suivi, on ne pouvait pas dire qu'il allait être un radical s'apprêtant à passer à l'acte. Et en même temps, on a cette individu qui est suivi par la DGSI et qui s'occupe que du haut du spectre, c'est-à-dire les individus les plus dangereux.
Uh-huh.
Deuxième question, c'est il ne donne rien, ok, la DGSI ne fait pas forcément des perquisitions administratives quand on surveille de manière très étroite un individu. Mais s'il était, si la DGSI avait conclu qu'il ne donnait rien, on finit en général par une perquisition administrative,
oui.
comme c'était le cas sous l'état d'urgence, il y a quand même eu 4600 perquisitions administratives, et on fait ce qu'on appelle les levées de doute, on vérifie effectivement s'il n'y avait rien. Est-ce qu'une perquisition administrative aurait changé les choses ? C'est facile de refaire l'histoire quand on connaît la fin.
C'est ça.
Mais en tout cas, il y a quelques interrogations qu'il va falloir effectivement lever dans les semaines et les mois qui viennent.
Et des gens comme lui, des enterrés ou des demi-enterrés là-bas, dans les banlieues, dans les quartiers difficiles ou ailleurs d'ailleurs, il y en a combien en France aujourd'hui ?
Il y a
des dizaines, des centaines, des milliers ?
On a un fichier qui a été créé par Bernard Cazeneuve à l'époque quand il était ministre de l'Intérieur, qui est le fichier FSPRT, qui recense les individus radicalisés. Dans ce fichier, il y a 20 000 personnes.
20 000.
Sur ces 20 000 personnes, il y a des signalements un peu abusifs, des dénonciations calomnieuses, et donc il y a ce qu'on appelle, sur les 20 000, il y a 11 000 fiches actives. 11 000 fiches actives, ça veut dire qu'il y a 11 000 personnes liées à l'islam radical qui sont suivies par les services de renseignement via les préfectures,
serrée.
De manière plus ou moins serrée, avec une répartition, ce que je disais, sur les individus les plus dangereux sont surveillés par la DGSI, c'est à peu près 4000 cibles qui sont ciblées par la DGSI, et puis après il y a les seconds couteaux, entre guillemets, qui sont surveillés par le service de renseignement territorial, le SRT, ou la DRPP, le service de la préfecture de police de Paris.
Donc, on ne peut pas leur mettre 10 ou 12 policiers à chacun derrière le dos pour 24-24, c'est impossible.
C'est évidemment impossible, même si les effectifs de nos services de renseignement ont augmenté. On utilise plusieurs techniques. On utilise effectivement les interceptions téléphoniques,
Internet. Les réseaux sociaux.
Il y a effectivement quelques filatures, mais évidemment, quand on passe d'une cible à une autre, lorsqu'elle ne donne rien, c'était certainement le cas sur cet individu, Lakhdim. Donc, il faut évidemment pas jeter la pierre aux services de renseignement. Ils sont face à un défi du nombre, un défi de la diversité sur l'ensemble du territoire national. Et donc, la chose est particulièrement complexe.
Une dernière question, Monsieur Pietrasanta. Il y a 3 ans, je me souviens, à l'époque du président Hollande, dans la lutte antiterroriste, on disait, mais c'est pas possible, il y a trop de services et ils se tirent dans dans les pattes. Il faut unifier tout ça. Est-ce que 3 ans après, c'est fait ?
Il y a eu un vrai travail de rationalisation des services de renseignement. Honnêtement, il y a la fluidité entre les services de renseignement. Il y a une cellule qui a été la cellule ALAT qui a été créée en 2015, qui réunit au quotidien un correspondant de chaque service de renseignement, justement uniquement consacré au terrorisme islamiste, et qui, honnêtement, a de bons résultats. Le président Macron a créé le Centre national antiterroriste, contre terrorisme, directement à l'Élysée, qui permet là aussi de mieux coordonner les choses.
Donc on sera meilleur demain qu'hier.
On s'est largement amélioré ces dernières années, les choses se sont faites, mais 100% de précaution, c'est ce que Cazeneuve disait souvent, 100% de précaution ne veut pas dire zéro risque, et il faut s'attendre à de nouveaux attentats, ayons l'honnêteté de le dire.
Merci beaucoup Sébastien Pietrasanta. Je rappelle que vous êtes ancien député socialiste et que c'est vous qui aviez en charge notamment le rapport parlementaire sur les attaques djihadistes de novembre 2015 en Île-de-France. Je vous souhaite un bon dimanche, monsieur.
Merci.
À suivre dans cette matinale d'info, la météo et le journal d'Anne Le Hénaff. Et puis à 9h15, nous allons à Saint-Malo avec Jean-Sébastien Petit-Demange. À 9h25, l'humoriste Christine Béroux nous fait partager ses réflexions sur l'heure d'été. Et à 9h30, un roman exceptionnel dans C'est à lire. Ce n'est pas un polar, une fois n'est pas coutume. Ça s'appelle Eugénia et c'est une vraie splendeur. Quant à Maison Jardin Cuisine Brocante, je vous donne le programme dans une demi-heure. À tout de suite.
RTL Matin.